Le journal présenté par Thomas Larabie. Bonsoir.
Bonsoir Olivia, bonsoir à tous. La campagne de vaccination commence demain en France sur des personnes âgées volontaires à Sevran et Dijon. On détaille dans un instant le calendrier vaccinal qui commence tout doucement à se dessiner. Dans le même temps, l'angoisse grandit au sujet de la nouvelle souche du coronavirus découverte en Afrique du Sud et en Angleterre et qui se répand en Europe. Une mutation qui, vous l'entendrez, pourrait perturber le calendrier vaccinal. Le ministre turc de la Défense est en visite en Libye officiellement pour inspecter les usines. Mais on peut y voir aussi une provocation à destination des troupes du maréchal Haftar qui contrôle l'est du pays. On y revient avec Christian Chesneau. Et puis, on apprend ce samedi la mort d'une légende de la guerre froide, l'agent double britannique George Blake, décédé en Russie à l'âge de 98 ans. Dégoûté par les agissements de l'armée américaine en Corée, cet espion du MI6 a longtemps fait la taupe pour le compte du KGB. Récit d'une vie digne des meilleurs polars à la fin de ce journal. Le calendrier vaccinal se dessine en France. Les 20 000 premières doses du vaccin sont arrivées tôt ce matin à la pharmacie centrale de l'assistance publique en banlieue parisienne où elles sont stockées à moins 80 degrés avant d'être distribuées. Et demain, les premières injections auront bien lieu à Sevran et Dijon auprès de personnes âgées volontaires. Bonsoir Laura Dulieu.
Bonsoir.
Concrètement Laura, comment ça va se passer demain ?
Eh bien demain, plusieurs flacons de doses du vaccin Pfizer seront reçus par les deux établissements. 6 flacons, soit l'équivalent de 30 doses, partent en Bourgogne, au centre gériatrique de Champmaillot, qui dépend du CHU de Dijon. Là-bas, quelques résidents recevront une première injection. On le rappelle que la vaccination se fait en deux fois. Quelques résidents, donc, ainsi qu'un membre du personnel soignant âgé de plus de 65 ans. Une deuxième livraison de 3 flacons, soit 15 doses, va un peu plus près à l'unité de soins de longue durée de l'hôpital René Muret de Sevran. Là, c'est une dizaine de résidents qui sera vacciné et là aussi un professionnel de santé de plus de 65 ans. Tous sont évidemment volontaires. Leurs consentements ont été recueillis ces dernières semaines. En revanche, pas de détails plus précis sur l'identité de ces premiers vaccinés. L'exécutif semble vouloir éviter le trop-plein de communication là-dessus. Pas de starification donc, contrairement aux États-Unis ou au Royaume-Uni.
Alors ça c'est pour demain, mais c'est toute une campagne de vaccination qui débute. Quel est le programme des prochaines semaines ?
Alors d'abord, dès la semaine prochaine, les doses reçues vont continuer d'être distribués dans plusieurs zones. 23 établissements doivent recevoir des flacons en région parisienne, en région lyonnaise, dans les Hauts-de-France ainsi que dans la région de Tours. Et dans le même temps, va démarrer la phase préparatoire. Phase préparatoire, ça veut dire les consultations pré-vaccinales pour recueillir les consentements des résidents d'EHPAD et d'unités de soins longue durée. Même si les vaccinations commencent doucement demain, l'idée c'est de pouvoir atteindre une sorte de rythme de croisière dans ces établissements dès mi-janvier jusqu'à début février, avec l'objectif que pendant cette période, toutes les personnes dans ces établissements se soient vues proposer la vaccination. Viendront ensuite les habitants des résidences seniors, les plus de 65 ans et les professionnels de santé à risque. À noter que les patients vaccinés seront particulièrement suivis. Un fichier sera notamment créé pour contacter les personnes en cas d'apparition d'un risque nouveau. Et pour cette première phase, les autorités espèrent ainsi vacciner 1 million de personnes d'ici fin février.
Les précisions de Laura Dulieu. Et alors que c'est toute l'Europe qui s'apprête à vacciner, la menace du variant au coronavirus, cette nouvelle souche repérée en Afrique du Sud et en Angleterre se fait plus précise, une souche beaucoup plus contagieuse selon les autorités britanniques et qui se répand dans les pays alentours, en Allemagne, en Espagne mais aussi en France. Les autorités ont officialisé un premier cas ce matin repéré près de Tours, un homme asymptomatique revenu de Londres il y a quelques jours, avec une inquiétude pour le professeur Philippe Frogel, généticien et endocrinologue au CHU de Lille, que ce nouveau variant devienne la souche prédominante en Angleterre et même ailleurs, avec des conséquences sur le calendrier vaccinal. Écoutez.
Techniquement, c'est possible de modifier le vaccin. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faudra refaire des tests cliniques ou ceux qui ont été faits avant seront-ils suffisants ? Parce que s'il faut refaire un test clinique, ça retarde de 3-4 mois à chaque fois. Donc ça, il faut que les autorités compétentes nous le disent. Tant qu'on aura des gens infectés, on va avoir des modifications et c'est pour ça qu'il faut accélérer le mouvement sur la vaccination et en même temps faire très très attention, séquencer les souches, séquencer l'ARN du virus et puis faire comme en Angleterre ou dans d'autres pays, savoir exactement quelle est l'apparition de nouvelles souches différentes des premières. Ça, c'est relativement facile. Le plus difficile, ça va être d'essayer de trouver des corrélations avec la maladie. Est-ce qu'elle est plus contagieuse? Est-ce qu'elle est plus sévère? Et ça, ça demande un suivi des patients qui n'est pas obligatoirement très très facile.
Le généticien et endocrinologue Philippe Frogel est au Japon. Suite à la découverte de premiers cas de contamination par ce variant, le pays ferme ses portes aux étrangers pendant un mois. Seuls les citoyens japonais et les étrangers résidant au Japon pourront continuer à entrer. Ils devront toutefois présenter un test négatif 72 heures avant leur voyage et seront placés en quarantaine pendant 2 semaines après leur arrivée. Vers des examens adaptés à l'épidémie, le gouvernement va pouvoir revoir les modalités du baccalauréat, mais aussi des autres examens en fonction de l'évolution de l'épidémie, et ce jusqu'à 2 semaines avant le début des épreuves. Une ordonnance a été publiée au journal officiel en ce sens. Ces adaptations doivent respecter le principe d'égalité de traitement des candidats, mais pourront porter à la fois sur la nature des épreuves, le nombre des épreuves, leur contenu, leur coefficient ou encore leurs conditions d'organisation. Certaines épreuves pourront notamment s'effectuer de manière dématérialisée. Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, est arrivé en Libye avec des responsables de l'armée. Une visite officiellement pour inspecter les unités militaires turques présentes dans le pays. Mais une visite surtout inattendue qui survient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU continue de demander le départ de Libye des soldats étrangers et des mercenaires. Visiblement, Ankara ne semble pas pressé de se désengager militairement, Christian Chesneau.
C'est sans doute une réponse au violent discours anti-turc du maréchal Haftar appelant à chasser l'occupant turc du pays, diatribe lancée à l'occasion du 69e anniversaire de l'indépendance de la Libye. Ankara a vu rouge et a donc répliqué en dépêchant son ministre de la Défense, Hulusi Akar, à Tripoli. Une façon de montrer que la Turquie ne se laissait pas intimider par la rhétorique du maréchal. Le Parlement turc vient d'ailleurs d'adopter une motion prolongeant de 18 mois l'autorisation au gouvernement de déployer des troupes sur le sol libyen pour soutenir le gouvernement de Fayez Sarraj, adversaire du maréchal Haftar. C'est aussi un geste de défiance vis-à-vis du Conseil de sécurité de l'ONU qui exige le départ des mercenaires et soldats étrangers en Libye. Au total, il serait environ 20 000 sur place. Cela concerne la Russie, soupçonnée d'avoir couvert l'envoi de paramilitaires, mais aussi la Turquie qui dispose de militaires sur place équipés de blindés et de drones. Ce retrait des forces étrangères est l'une des conditions essentielles pour consolider le cessez-le-feu et surtout concrétiser sur le terrain une dynamique de règlement politique actuellement en cours. Or, pour la Turquie, qui a critiqué l'accord de cessez-le-feu, l'heure de son désengagement en Libye n'est pas encore venue.
Les précisions de Christian Chesneau. À 24 heures des élections présidentielles en Centrafrique, le Conseil constitutionnel rejette tous les recours pour reporter le scrutin. Le pays est toujours le théâtre de combats entre d'un côté l'armée centrafricaine appuyée par la Russie et de l'autre des groupes rebelles hostiles au président sortant, des rebelles qui contrôlent désormais les 2/3 du pays. Cet après-midi, lors d'une conférence de presse, plusieurs chefs d'État d'Afrique centrale ont évoqué l'envoi de troupes en Centrafrique et appelé les citoyens à se rendre massivement aux urnes. C'est la fin d'une vie plus intrigante, plus palpitante que le meilleur de vos polars. L'ex-agent double britannique George Blake est mort chez lui ce samedi en Russie. L'espion âgé de 98 ans était devenu une véritable légende de la guerre froide, célèbre pour avoir été la taupe qui espionnait pour le compte du KGB soviétique dans les années 50. Le récit d'Élise Delève.
George Blake, l'un des agents britanniques les plus doués de sa génération. Il n'a pas 20 ans quand il commence à travailler pour les services secrets anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est ensuite envoyé en Corée où les Russes l'arrêtent. Bouleversé par les bombardements américains sur la population civile, il embrasse la cause communiste et propose ses services aux Soviétiques. Débute alors une double vie. Officiellement pour les Britanniques, il recrute des officiers russes. Officieusement, il renseigne le KGB. C'est lui qui les informe de la construction d'un tunnel à Berlin par les Anglais et les Américains pour écouter les conversations à l'Est. À cette époque, en 1955, moins de 30 personnes sont au courant du projet. L'espion fournit également des centaines de noms d'agents au KGB. George Blake est dénoncé par un autre agent double et arrêté à Londres. En 1961, il est condamné à plus de 40 ans de prison, mais s'évade 5 ans plus tard. La Russie l'accueille à bras ouverts, le fait citoyen d'honneur et le KGB lui décerne le rang de colonel. Il vivait depuis dans la banlieue de Moscou, a écrit des livres et inspiré de grands auteurs de romans d'espionnage tels que John le Carré. George Blake avoue avoir été déçu et a déchanté devant la réalité de l'idéal communiste, mais n'a jamais regretté ses actes. Dans une rare interview, il confesse « Il n'est jamais mal d'offrir sa vie à un noble idéal, même si ce n'est pas couronné de succès.
Le récit d'Élise Delève. Un mot de la météo pour vous dire que les départements du Finistère et de la Manche sont placés en vigilance orange au vent violent par Météo France. L'épisode devrait débuter aux alentours de 4h cette nuit et durer demain jusqu'à la mi-journée avec des pointes de vent allant jusqu'à 130 km/h sur les côtes. Prudence donc. Autrement demain matin de la pluie sur un large quart nord-est de Lille à La Rochelle en passant par Paris et Orléans. Un soleil timide partout ailleurs. Côté température, comptez moins 7 à Chamonix, 0 à Lyon, 7 à Paris et 10 pour la maximale à Nantes. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia, à la technique Adèle Caglard.